Le directeur diocésain de l'enseignement catholique tire la sonnette d'alarme. Sans l'aide des institutions et malgré l'adoption d'une délibération sur son financement en 2023, la DEC ne pourra plus payer les salaires de ses 513 employés fin avril. Dans ce journal, vous retrouverez aussi comme chaque lundi la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Six jeunes Calédoniens s'apprêtent à partir un an au Vanuatu et en Nouvelle-Zélande. Ils ont été retenus dans le cadre du programme France Volontaire et sont réunis pour une semaine à la Côte-Blanche. En métropole, l'antisémitisme est un poison. Emmanuel Macron a réagi après l'agression du rabbin d'Orléans par un jeune de 16 ans en pleine rue et devant son fils. Et puis à l'étranger, les délégations ukrainiennes et américaines entament un nouveau round de discussions pour un cessez-le-feu. L'administration américaine espère le signer aux alentours du 20 avril, mais il reste beaucoup de points en suspens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se prolongera par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël.
Ah, bonjour Jean-François.
Et puis cette surprise quand même, on peut le dire, hein, la France est en demi-finale de la Ligue des Nations, c'est du football.
Une belle frayeur pour les Bleus, mais les Croates ont encore subi la loi des Français. 2-0 à l'issue des prolongations et une qualification après la séance des tirs au but qui a été à haut suspense et qui a souri à Mbappé et ses coéquipiers. Les Bleus retrouveront l'Espagne dans le Final Four de cette Ligue des Nations au mois de juin. L'autre affiche opposera l'Allemagne au Portugal.
Et puis on parlera aussi foot dans la région avec un match important pour les Calédoniens ce soir à 17h.
Oui, les Cagous sont à un match d'un rêve mondial. La sélection A tentera de se qualifier directement pour la Coupe du Monde de 2026 en Amérique. Pour cela, les Calédoniens devront battre les Néo-Zélandais sur leur terre à l'Eden Park d'Auckland. Coup d'envoi de la rencontre à 17h pour nous.
Et puis dans la page consacrée aux résultats sport en Calédonie, on parlera de rallye avec nos deux invités.
Oui, la passation de pouvoir à la tête de l'organisation des rallyes de Nouvelle-Calédonie, c'est toute une page d'histoire du sport calédonien qui se tourne avec Jean-Louis Leroux qui passe le flambeau. À l'inverse, Romain Leandro, nouveau président de l'AZNC, ne compte pas abandonner ce bel héritage et va remettre le moteur en route pour une saison des rallyes 2025 avec trois rendez-vous en vue.
On se retrouve pour le magazine des sports dès la fin de ce journal. La DEC en grande difficulté financière. Ce matin, le directeur diocésain de l'enseignement catholique, Manuel Van Arscott, a évoqué ses inquiétudes et il l'a fait dans une déclaration solennelle devant la presse, Léana Colombo.
À quelle place et à quel niveau dans la hiérarchie des valeurs sociétales plaçons-nous l'éducation de la jeunesse calédonienne ? C'est par ces mots que Manuel Van Arscott a débuté son discours. Une déclaration pessimiste quant à l'avenir de l'enseignement catholique et ce, malgré des mesures prises en interne pour réduire les coûts de fonctionnement et l'adoption d'une délibération sur le financement de l'enseignement privé par le Congrès fin 2023. Selon le directeur de la DEC, les taux de financement attribués au secteur sont tout simplement insuffisants.
Malgré nos rencontres et ces alertes, ces taux ont été reconduits à l'identique pour 2025 sans concertation avec nous. À noter que seul le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a établi la convention aux taux mentionnés pour cette année 2025. Cependant, à ce jour, si chaque partenaire de l'enseignement catholique nous assurait par convention de sa contribution à hauteur de ses taux, nous tenons à signaler qu'il nous manquera quand même 500 millions pour assurer en 2025 l'accueil de nos 892 internes et le repas de nos 9335 demi-pensionnaires.
Le directeur de la DEC alerte également sur la baisse drastique des subventions versées depuis plusieurs années par les institutions, ce qui a contribué à accroître la crise financière de l'enseignement catholique. Des mesures fortes doivent donc être prises.
Si la trésorerie de la DEC, constituée au fil des années par une gestion saine et rigoureuse, a permis de pallier à la baisse des ressources, aujourd'hui elle est épuisée, exsangue. L'urgence de la situation est telle que si avant la fin d'avril 2025, aucune solution n'est trouvée pour nous apporter une contribution exceptionnelle de 500 millions, il ne nous sera plus possible d'honorer, après cette date, la totalité des salaires de nos 513 personnels.
Manuel Van Arscott évoque la possibilité que les fonds de soutien exceptionnels ne soient pas trouvés à temps. Dans ce cas-là, la DEC devrait se concentrer sur sa fonction première d'éducation.
Si tel était le cas, nous nous recentrions sur notre mission première, qui est l'éducation de la jeunesse, mais celle-ci se verrait fortement remise en question, faisant ainsi fi de la liberté de choix des familles de nos 12 100 élèves. Nous estimons que la présence de personnel pour préparer, surveiller, servir un repas chaud chaque jour et assurer la sécurité des élèves internes fait partie inhérente, intégrante d'un bon service d'éducation en Nouvelle-Calédonie.
Une déclaration solennelle qui s'est terminée par un appel à l'aide du directeur diocésain de l'enseignement catholique.
Nous méritons considération et reconnaissance pour notre engagement historique au quotidien, et ce, partout. En cette année jubilaire célébrée par l'Église sur le thème de l'espérance, je forme le vœu et je crois fermement à la responsabilité de tous nos élus pour que des engagements rapides, forts et durables puissent être trouvés. Le temps de la prise de parole est terminé, celui des engagements financiers se doit d'être respecté. L'enseignement catholique a besoin de vous. De grâce, prenons-en soin, nous vous lançons cette ultime alerte.
Manuel Van Erskot, le directeur diocésain de l'enseignement catholique. Un courrier de demande de subvention a été envoyé quelques jours plus tôt aux principales institutions et collectivités de Nouvelle-Calédonie. Les parents d'élèves et le personnel ont également été informés de la situation critique de l'ADEC. Je rappelle que 12 100 élèves sont inscrits cette année dans des établissements catholiques sur le territoire.
Il est 11h36, la suite de ce journal, c'est le rendez-vous du lundi, il s'agit de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Aide-toi, l'État t'aidera. C'est un peu le principe édicté par Paris à l'égard de la Nouvelle-Calédonie et cela fait quelques mois que ça dure. Aide-toi en faisant les réformes indispensables qui ont plombé ces dernières années l'économie calédonienne. Et l'État t'aidera en débloquant les fonds qui permettront de faire face à la catastrophe économique et sociale engendrée par les violences insurrectionnelles. Objectivement, ça se tient. Et l'État avait tenu le même discours pour les prêts qui avaient été accordés au moment du Covid. Et c'est vrai qu'il est compliqué de réclamer à la fois de plus en plus d'autonomie et de plus en plus de dépendance financière. Et c'est d'autant plus étonnant quand cette revendication émane des rangs indépendantistes. Quoi qu'il en soit, la Nouvelle-Calédonie n'est pas un département et elle ne veut pas l'être. Elle n'est donc pas en position de réclamer ce qui pourrait sans doute lui être accordé plus facilement si elle avait un autre statut. Pour le dire trivialement, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas tout avoir sans aucune contrepartie. Mais en Calédonie, ça coince et cette logique a du mal à passer. Tous les élus, toutes les collectivités ont tenté, en vain, d'infléchir la position de Paris, ou plutôt de Bercy, pour tenter de faire transformer en subvention le fameux prêt de 120 milliards. Nous savons pourtant, grâce à Emmanuel Macron, qu'il n'y a pas d'argent magique et qu'il va bien falloir, que cela nous plaise ou non, faire quelques efforts pour participer à la refondation et à la reconstruction de l'économie du territoire. Alors bien sûr, on peut dénoncer l'ingratitude de l'État et son manque de compassion. On peut faire valoir que la Calédonie est exsangue et que ce n'est pas le moment de lui demander des efforts. Mais franchement, l'État, ou la France, parce qu'il faut l'appeler par son nom, a ces derniers temps toujours été là quand la Calédonie en a eu besoin. Sans remonter très loin, comment la Calédonie aurait-elle pu passer il y a 5 ans l'épisode de la pandémie de Covid s'il n'y avait pas eu la France ? Et comment la Calédonie aurait-elle pu faire face à la folie destructrice de la CCAT s'il n'y avait pas eu la France ? Il y aura toujours des petits malins mal intentionnés comme Philippe Gomez pour jouer l'indignation et refuser martialement un prêt de l'État qualifié de punition collective qui viendrait endetter les générations futures. Il prétend que de toute façon, l'État paiera quoi qu'il arrive. Mais l'on a vu que ce n'est pas si simple et que Bercy n'a pas laissé passer fin décembre une réforme insuffisante de la TGC. On a vu aussi et surtout les conséquences dramatiques du refus du pacte Nickel à l'instigation déjà du leader de Calédonie Ensemble. À l'époque, il avait réussi à convaincre les indépendantistes de ne pas voter un accord défendu par le président indépendantiste du gouvernement. Mais qui peut dire quelques mois plus tard, alors que KNS a fermé et que les deux autres usines peinent à produire, qu'il était pertinent de refuser l'aide de l'État à la filière minière et métallurgique. On peut espérer que les élus du Congrès feront preuve de davantage de discernement lors de l'examen vendredi du budget 2025, d'autant que s'il n'est pas adopté avant le 31 mars, c'est l'État qui prendrait la main sur le budget de la Nouvelle-Calédonie, et ce serait un comble pour ceux qui dénoncent justement les conditions drastiques qu'il veut nous imposer. Alors faut-il refuser les 120 milliards de l'État sous prétexte qu'il faudra les rembourser ? Comme le disait Jean de La Fontaine, « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. »
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez sur notre site internet. Vous pouvez aussi la réécouter cet après-midi à 16h sur l'antenne de Radio Rythme Bleu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Attendez-vous des avancées sensibles sur l'avenir institutionnel de la visite de Manuel Valls qui est attendue samedi en Calédonie? Si vous attendez des avancées sensibles, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. 11h41, une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Propriétaire de Mitsubishi L200, Nissan NP300, i6 ou Qashqai. Du 17 mars au 12 avril chez Calais Pneus PK4 et Koné, achetez 3 pneus Apollo, le 4e est offert ou profitez de 25% de remise. Offre valable sur dimension signalée et stock limité. Plus d'infos au 41 31 41 ou sur Facebook.
RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le maintien du gel du corps électoral est une aberration qui crée trop d'injustices. C'est la conviction de Raphaël Romano, le président de l'association Un cœur, une voix. Il était notre invité ce matin à 7h30, Elisabeth Noir.
L'association tenait la semaine dernière son assemblée générale et elle veut continuer son combat pour la défense des quelques 42 000 exclus du droit de vote. Et si des Calédoniens ont quitté le territoire ces derniers mois, ce ne sont pas forcément les exclus du corps électoral, affirme Raphaël Romano. Les Calédoniens de cœur, ceux qui veulent participer au provincial, sont restés, selon lui, sur le territoire. Et il est convaincu plus que jamais qu'un dégel du corps électoral est possible, malgré les violences insurrectionnelles.
Il y a deux raisons qui nous laissent penser ça au sein de l'association. La première, c'est effectivement un prétexte utilisé par la CCAT et par des émeutiers terroristes qui ont détruit la Nouvelle-Calédonie. On l'a rappelé au ministre des Outre-mer, qui nous a dit que la réouverture du corps électoral et la réforme constitutionnelle étaient à l'origine des émeutes. Non, c'est faux, c'est un prétexte. Donc on sait très bien aujourd'hui, et j'espère que la justice fera toute la lumière sur ces problématiques, c'est une ingérence étrangère, c'est une manipulation de la jeunesse pour dire que la jeunesse n'était pas bien. Non, c'est uniquement un coup d'État que la France a réussi à gérer. Donc effectivement, la réouverture du corps électoral, elle se fera. Elle se fera parce que c'est une impérieuse nécessité juridique, ça a été dit par le Conseil d'État, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, le corps électoral, il sera réouvert.
Réouverture, dégel, c'est pas exactement la même chose.
Alors, effectivement, on aimerait, nous, que le corps électoral soit réouvert. L'accord de Nouméa prévoyait un corps électoral glissant. Tout le monde se targue et avance l'accord de Nouméa. Et ben, en fait, si on respectait l'accord de Nouméa, il y aurait un corps électoral glissant. Les Calédoniens ont voté pour l'accord de Nouméa et n'ont pas voté pour le gel du corps électoral en 2007. Donc, il faut revenir à l'accord de Nouméa. Et donc, on épuisera toutes les voies et les recours et les moyens qui sont à notre disposition pour réouvrir et dégeler le corps électoral.
Le corps électoral est au cœur des discussions sur l'avenir institutionnel et plusieurs hypothèses sont formulées. L'intégration des natifs fait, semble-t-il, consensus aujourd'hui. Pour l'association Un cœur, une voix, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant.
Au niveau de l'association, on se battra, mais on se battra le plus possible pour trois actes vraiment fondamentaux qui sont la réintégration des natifs, sans discussion aucune, la réintégration des conjoints. On estime que lorsque l'on est conjoint d'un Calédonien citoyen, on n'a pas demandé à trouver l'amour. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Et minimum 10 ans glissant, c'est-à-dire que les gens qui sont présents depuis 10 ans en Nouvelle-Calédonie doivent pouvoir voter. D'ailleurs, je vous le rappelle, l'intégralité des partis politiques indépendantistes et loyalistes, que ce soit l'Union Calédonienne, l'Unipalika, étaient d'accord pour la réintégration à 10 ans glissant.
Mais s'il n'y a pas d'accord, les élections provinciales pourraient se dérouler avec un corps électoral gelé. La réaction de Raphaël Romano.
Ça voudrait dire que si les élections provinciales se tiennent avec un corps électoral gelé, les Calédoniens, qui ont manifesté leur volonté de rester dans la République française par trois fois, ils ont envie que la Nouvelle-Calédonie soit une démocratie. Ils n'ont pas envie que ce soit une dictature. Ils n'ont pas envie qu'on dise que certaines personnes peuvent voter et d'autres non. Tous ceux qui construisent la Nouvelle-Calédonie, tous ceux qui contribuent à l'effort fiscal, doivent pouvoir choisir les élus qui vont déterminer les politiques publiques. Et quand on choisit les élus, notamment ici, c'est important, puisque la prochaine mandature, s'il n'y a pas d'accord, ça voudra dire que c'est celle qui devra trouver un accord. Comment vous pouvez imaginer que 43 000 personnes soient exclues de cet accord? Ça voudrait dire qu'on aurait un accord biaisé. Sur 180 000, 200 000 électeurs, il y aurait un quart des électeurs qui ne seraient pas consultés. C'est pas acceptable. Donc du coup, on fera tout ce qu'on peut, on épuisera toutes les voies et moyens.
Alors, l'association Un cœur, une voix prête à faire tous les recours possibles contre le maintien du gel du corps électoral. Elle invite tous les Calédoniens à adhérer, qu'ils soient ou non exclu du droit de vote.
Une interview de Raphaël Romano à retrouver en intégralité sur notre site internet en audio et en vidéo. La province Sud soutient le secteur du BTP. Dans un communiqué, elle rappelle ses engagements en matière de commandes publiques pour soutenir les acteurs de la filière. Concernant le bâtiment, les chantiers prévus vont de 10 millions à 1 milliard de francs et de 10 à 500 millions pour les infrastructures routières. Le montant total des investissements se monte à 11 milliards de francs de commandes lancées via des appels d'offres. Au chapitre des faits divers, un individu de 34 ans interpellé et placé en détention provisoire pour un carjacking commis à Thiot le 19 mars. Les faits se sont produits entre Pawani et la déchetterie quand une agricultrice a été stoppée sur la route par un homme au comportement violent qui l'a dépassé. Armé d'une clé en croix destinée à l'intervention sur des pneumatiques, l'individu a ordonné à la conductrice de sortir de son véhicule et comme elle n'obtempérait pas, il l'a extraite violemment de sa voiture tout en proférant des insultes à caractère raciste. Après avoir récupéré les clés, l'individu s'est emparé du véhicule et il a pris la fuite. La victime a été examinée par un médecin légiste qui a relevé des blessures physiques et psychologiques et a prescrit une incapacité totale de travail d'une durée de 7 jours. Les gendarmes sont parvenus à identifier l'agresseur, notamment grâce à l'exploitation de son téléphone qu'il avait abandonné dans son véhicule. Âgé de 34 ans et domicilié à la tribu Saint-Gabriel à Thiot, il a reconnu sa participation au carjacking et précisé qu'il était alcoolisé au moment des faits. Il est déjà connu de la justice, il a été placé en détention provisoire. Il comparaîtra demain devant le tribunal correctionnel. Notez enfin que sur ces indications, le véhicule volé a été retrouvé à la plage de Mohara, dissimulé dans des brousses, et il a été restitué à la victime. Le programme France Volontaire est de retour avec le début aujourd'hui d'une semaine de formation pour 6 jeunes. Un stage de préparation avant leur grand départ, Léo Fichou.
Oui, 6 Calédoniens âgés de 20 à 30 ans qui s'envoleront pour un an au Vanuatu, en Nouvelle-Zélande, selon leur choix de projet, pour effectuer une mission de volontariat international. Mais avant ça, pendant cette semaine de préparation, plusieurs thèmes vont être abordés. L'engagement, la citoyenneté, la sécurité ou encore la santé et l'interculturalité. Un programme important aux yeux de Michael Forest, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge notamment de la jeunesse.
Il s'agit là d'un programme qui existe depuis 2012, avec de nouveaux objectifs, notamment par rapport à la réciprocité, pour permettre au pays d'abord d'accueillir des jeunes de Tunisie, du Vanuatu, du Cambodge, etc. Mais c'est vrai aussi que de par la situation particulière aussi bien du pays, mais du Vanuatu également, donc c'était important de pouvoir réengager cette dynamique autour de la mobilité régionale de notre jeunesse, spécifiquement autour de projets comme ça a été présenté ce matin, autour de l'agroforesterie, autour de la médiation culturelle, autour de l'accompagnement des personnes, avec l'ensemble des opportunités qui existent au niveau géopolitique régional, pour continuer à construire cette dynamique positive.
Et des opportunités et surtout des liens forts tissés entre la Nouvelle-Calédonie et les pays du Pacifique, comme le Vanuatu par exemple. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique.
Ça touche à notre rôle, à nous, l'équipe diplomatique régionale française. Ce sont des jeunes qui sont formés en Nouvelle-Calédonie, qui représentent la Nouvelle-Calédonie et que ce sont des sortes d'ambassadeurs de France et de Nouvelle-Calédonie dans le reste de l'Océanie. Et aussi faire rayonner la formation de grande qualité qu'ils ont ici. Parce que la sélection pour être volontaire, c'est une sélection extrêmement exigeante. Et donc, ils vont apporter leurs compétences dans l'Océanie. Et évidemment, ils reviennent ensuite avec une expérience, parce qu'un an comme ça, ça change une vie, ça change un métabolisme, ça change une mentalité.
Et parmi les 6 jeunes Calédoniens qui ont décidé de s'engager dans le volontariat, on retrouve Laura, elle a 22 ans. Elle rejoindra le lycée français international Le Clésio de Port-Vila au Vanuatu. Une belle opportunité pour elle d'acquérir de l'expérience.
Mon objectif serait d'accompagner les élèves à l'épanouissement du français et soutenir aussi les projets périscolaires. Avant tout, c'était découvrir déjà un nouveau pays, de nouveaux horizons, une nouvelle culture, avoir une expérience concrète, de faire de nouvelles rencontres et aussi améliorer mon anglais. Pas oublier que Vanuatu aussi, ça parle anglais. Et peut-être aussi apprendre le bichlama. Voilà.
Et le départ des 6 volontaires au Vanuatu et en Nouvelle-Zélande donc est prévu entre les mois d'avril et de juin prochain.
Il est 11h50, une nouvelle pause avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde. Nous reviendrons notamment sur l'agression du rabbin d'Orléans qui fait couler beaucoup d'encre.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec l'actualité en métropole et une nouvelle agression antisémite qui fait beaucoup réagir, samedi soir, le rabbin d'Orléans a été agressé en pleine rue devant son fils. Il a été pris à partie par un adolescent de 16 ans, frappé, mordu et insulté. Arié Helgenberg a lui-même raconté l'agression dont il a été victime.
On rentrait de la synagogue avec mon fils. Il y a un jeune individu qui nous voit arriver au loin et il commence à crier en disant « Monsieur, est-ce que vous êtes juif ?» Je réponds « Oui ». Et il dit « Tous les juifs sont des fils d'eux ». C'est l'insulte et il crache, tout en se filmant et en nous filmant à nous. Moi, à ce moment-là, je me dis « Si je n'agis pas, cette vidéo, elle va tourner partout. On va voir un juif, un citoyen français, un rabbin de communauté en train de se faire insulter, cracher dessus et qui trace sa route, pardonnez-moi du terme. » Je dis « C'est pas possible ». Donc je me suis approché de lui. Et j'ai touché son téléphone de manière qu'il puisse plus continuer de filmer. Puis ensuite, c'est parti dans des coups.
Les enquêteurs continuent de vérifier l'identité de l'agresseur qui présente en fait trois identités différentes, une marocaine et deux palestiniennes. Une agression, je vous le disais, qui fait beaucoup réagir. Emmanuel Macron a dénoncé sur X le poison de l'antisémitisme. Et il y a quelques heures, à l'initiative de l'Union des étudiants juifs de France, un rassemblement s'est tenu place de la Bastille. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Ils sont environ 200 place de la Bastille, rassemblés tous ensemble pour dire non à l'antisémitisme. Prévenu à peine une heure avant le début de la manifestation, Noah n'a pas hésité une seconde à venir apporter son soutien au rabbin d'Orléans agressé hier.
Pourquoi je me suis déplacé? Parce qu'il faut lutter contre l'antisémitisme. Voilà, c'est assez simple, j'ai pas plus de choses à rajouter. Si un rabbin qui s'est fait attaquer, c'est comme si un imam se faisait attaquer, un noir se faisait attaquer, un blanc se fait attaquer. On est là pour lutter contre la haine.
Sur une estrade improvisée, les prises de parole s'enchaînent sous la supervision de Yosef Murciano, président de l'Union des étudiants juifs de France.
C'est intolérable, c'est insupportable. En France, on a le droit de vivre en tant que citoyen français juif sans que rien ne doive nous menacer. C'est pour ça qu'on est rassemblés ce soir, pour le dire haut et fort.
Une volonté de lutte et de résilience partagée par Nathalie qui ne veut pas s'habituer à l'antisémitisme.
À destination des antisémites, on est ici, chez nous, on est français, on est juif, on est fier, on est fort, on n'a pas peur et on vous emmerde.
Le rassemblement se conclut par une Marseillaise reprise en chœur par toute la foule.
Dans le reste de l'actualité, s'achemine-t-on vers un apaisement entre Paris et Alger? Les relations entre la France et l'Algérie sont très tendues depuis que le pouvoir algérien refuse l'entrée sur son territoire de ses ressortissants expulsés de France. Fait assez rare, le président Abdelmadjid Tebboune a évoqué le sujet dans une interview sur les chaînes de son pays. Il y a trois jours, Emmanuel Macron avait dit avoir confiance dans la clairvoyance du président algérien. Son message semble avoir été entendu.
L'unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue, à savoir le ministre des Affaires étrangères, Fahd Hamdan.
Abdelmadjid Tebboune n'a à aucun moment prononcé le nom du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est montré très dur avec le pouvoir algérien. Il n'a pas non plus évoqué l'affaire Boualem Sansal, cet écrivain algérien emprisonné depuis son retour en novembre dernier. Jugé la semaine dernière, il risque 10 ans de prison. Le verdict sera connu dans la semaine. Pendant ce temps-là, les délégations américaines et ukrainiennes ont repris leurs négociations à Riyad. Elles poursuivent leurs discussions sur les conditions dans lesquelles un cessez-le-feu pourrait entrer en vigueur. De nombreux sujets sont sur la table, car tout n'est pas réglé, loin de là. Mais quelques priorités se dégagent. Geoffrey Branger.
D'abord, l'Ukraine souhaite obtenir des garanties de sécurité, notamment sur ses installations énergétiques. Un cessez-le-feu aérien a déjà été mis en place cette semaine, mais pour aller plus loin, Donald Trump propose par exemple que les États-Unis deviennent propriétaires des centrales électriques et nucléaires du pays. Il sera également question d'un cessez-le-feu maritime en mer Noire. Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes et internationales.
Est-ce que les navires pourront circuler librement? Est-ce que le cessez-le-feu comprend l'arrêt de
toute intervention maritime. Est-ce que les Américains vont donner des garanties de sécurité à l'Ukraine? Tout cela reste encore très flou.
De son côté, la Russie va chercher à conserver les régions annexées depuis le début de la guerre, Donetsk, Zaporijja ou encore Louhansk. Le sujet le plus tendu pour Régis Le Sommier, grand reporter spécialiste de la région.
Les Russes demanderaient l'intégralité des frontières administratives de ces oblasts, ce qui signifierait que si les Ukrainiens acceptent, qu'ils se retirent et qu'ils perdent encore davantage de terres. Donc les négociations vont être extrêmement serrées pour obtenir un cessez-le-feu définitif. Si cessez-le-feu définitif il y a, on en est à mon avis encore loin.
Pourtant les Américains veulent aller vite. L'administration Trump a déjà annoncé vouloir conclure un accord de cessez-le-feu d'ici Pâques, soit le 20 avril.
Et puis prenons des nouvelles du pape François qui est apparu à la fenêtre de la clinique Gemelli où il est hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie. Assis dans un fauteuil roulant, le pape a salué et béni la foule. À 88 ans, son état de santé s'est amélioré. Il a regagné le Vatican, mais il doit rester encore en convalescence pendant au moins 2 mois, ont estimé ses médecins.